Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on va pas parler grossesse, pas parler accouchement, pas parler petite enfance, mais on va parler de l'adolescence, et en particulier d'un sujet qui concerne beaucoup d'adolescents, le cannabis. Au secours, mon ado fume du cannabis. On va parler de ce sujet qui, on le sait, concerne énormément de familles, avec tout d'abord un témoignage, puis nous serons avec un psychiatre addictologue, Dr Olivier Pan. C'est parti.
Alors, selon les derniers chiffres de Santé publique France, qui datent de 2017, 39% des adolescents de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ça, c'est un chiffre déjà qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que là, tous les parents, tout à coup, se disent « Aïe, je vais écouter quand même le témoignage de Julien parce que ça peut me tomber dessus. » Julien, vous avez 25 ans, vous avez commencé à fumer à 11 ans. C'est quand même super tôt. Vous avez arrêté il y a 10 mois, donc déjà bravo, parce que c'est pas facile hein, quand
Merci.
On a une addiction qui dure aussi longtemps.
Ouais,
en préparant l'émission, vous avez dit que vous étiez un enfant super heureux, sans problème, voilà, vous débordiez d'énergie. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à fumer du cannabis alors ?
J'ai commencé déjà par les fréquentations, ça a été super vite. Et après, avec les soucis à la maison, le divorce des parents,
En gros, vous avez commencé. Pour essayer, pour faire comme les copains ?
Voilà, c'est ça. Au début, c'était juste pour tester. Puis après, j'ai vu que ça me faisait tourner la tête, ça me faisait oublier mes soucis. Et c'est une accoutumance qu'on ne voit pas forcément arriver, mais ça va super vite.
À quel moment donc c'est venu plus régulier ? Vous disiez les problèmes qui sont arrivés à la maison. Il y a eu le divorce de vos parents ?
C'est ça, en 2009, le divorce de mes parents. Et après, j'ai commencé à fumer régulièrement. Au début, c'était vraiment occasionnel. Hein. Et après, ça commençait à être 1 à 3 tous les jours, après un peu plus. Dans les années, en fait, ça a été en crescendo.
Et du coup, j'imagine qu'au collège, il y a eu des conséquences si vous fumiez régulièrement comme ça.
Ouais, j'étais vraiment pas très concentré en cours. J'écoutais pas trop à la maison. Je commençais vraiment à partir un peu dans. J'étais tout le temps dans ma tête, en fait.
Vous avez redoublé votre quatrième ?
C'est ça.
C'est ça. Et alors, à ce moment-là, la consommation a encore augmenté ?
J'ai déménagé parce que mes parents, ils avaient divorcé. Donc, j'ai changé de collège et ça m'a un peu chamboulé dans toutes mes habitudes. Donc, je me suis fait de nouvelles fréquentations qui fumaient aussi. Et à chaque fois, en fait, avec mes amis, on faisait que ça.
Et ça veut dire que là, par exemple, après la quatrième, enfin, votre deuxième quatrième, vous étiez à quel... consommation, quel nombre de joints par jour ?
Je fumais tous les jours pratiquement. C'était essentiellement soit avant, soit après les cours, avant de rentrer. Je devais être en dessous de 5 par jour, à peu près.
D'accord, ouais, enfin, c'est quand même énorme.
Ouais, ouais.
Et vous fumiez toujours en groupe avec vos copains ou parfois tout seul ?
Je fumais en groupe au début et après j'ai commencé à fumer tout seul. Donc je fumais dans mon jardin. Et là, ça commençait à être un peu compliqué parce que l'addiction, en fait, elle se faisait ressentir. Je ne pouvais pas dormir sans. J'étais vraiment obligé d'avoir mon joint avant de dormir. Sinon, j'étais vraiment irrité. Donc, ça a été très vite.
Voilà. Alors là, quand vous dites « j'étais obligé d'avoir mon joint avant de dormir », vous avez plus ou moins 16 ans. Vous avez fait un CAP de cuisine, c'est ça ?
C'est ça.
Vous continuez à fumer pendant votre CAP ?
Oui, en plus, j'avais plus d'argent. J'avais beaucoup plus d'argent pour m'en procurer. Donc là, ma consommation, elle a...
Oui, c'est ça. Dès que vous avez eu les moyens, vous avez...
Dès que j'ai eu les moyens, déjà avant, je fumais parce que j'avais de l'argent de poche. Mais dès que j'ai eu les moyens, j'achetais vraiment beaucoup plus et je fumais beaucoup plus.
Vous mettiez tout votre argent là-dedans, quoi.
Ah oui, oui. Je comptais pas.
Comment est-ce que vous faisiez pour acheter du cannabis alors que vous étiez mineur ?
J'allais à la cité et c'était pas un problème. L'âge, franchement...
Voilà, vous y a des, y a des vraiment dealers points. Partout, quoi.
Oui, il y en a, y a beaucoup dans les cités, surtout dans les cités. Il y a beaucoup de points d'achat, quoi, de ça. Et ils ne regardent pas là, ils ne vont pas demander, comme au tabac, la carte d'identité pour un paquet de...
Et ça représentait combien par mois, à peu près ? Vous avez une idée ?
Au maximum, 600 euros. Et après, au début, je ne comptais pas. Mais vraiment, à la fin, quand j'ai commencé à me poser dessus, cigarettes, feuilles à rouler et cannabis, j'étais à 600 euros.
Énorme.
C'est énorme.
Énorme. Est-ce que vos parents ont eu des doutes à un moment, quand même ?
Au début, non, parce que je le cachais assez bien. Je mangeais des chewing-gums, je mettais du parfum. Et après, ils ont, vers quand j'avais 15 ans, ils ont commencé à avoir des doutes. Ma mère, elle a surpris ma sœur au début. Et après, elle a fouillé ma chambre et elle en a trouvé aussi dans la mienne. Donc moi, j'ai essayé de nier. J'ai dit que c'était à des copains, que je le gardais, tout ça, mais elle m'a pas cru. Elle voulait carrément m'emmener à la police, enfin, au commissariat pour me faire peur. Mais ça m'a pas du tout dissuadé. Après, je le cache encore mieux, quoi.
Mmh. Et ils ont réagi comment, vos parents, quand ils ont compris que c'était régulier ?
Ma mère, au début, elle voulait m'emmener voir un psychologue, mais en fait, bah, j'esquivais vraiment le sujet, quoi.
Mais vous, donc, vous disiez quoi ? Vous disiez, oh, pff, c'est pas
non,
grave.
Non, pour moi, voilà, pour moi, c'était vraiment, je me rendais pas compte de l'accoutumance que je commençais à faire autour de ça, en fait.
Vous voyez pas le problème, en fait, vous ?
Non, pas du tout. Pour moi, c'était vraiment banal. En plus, toutes mes fréquentations faisaient ça, donc pour moi, c'était une normalité.
Et donc, votre maman, elle a fini par quoi ? Par baisser les bras ? Elle s'est dit bon...
Ouais, franchement. En plus, je faisais ça dans son dos, donc elle avait vraiment aucune emprise sur ça. Elle savait vraiment pas ma consommation. Bon, des fois, je lui demandais de l'argent, mais je lui disais que c'était pas pour ça. Donc, ça a été vraiment pour elle, bah, elle savait pas du tout...
Vous n'arrêtez pas de lui mentir, en fait.
Ouais, voilà, vraiment, je lui mentais tout le temps.
Alors, quand est-ce que vous êtes sentie sombrée ? Quand est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, là, quand même, et ça a des conséquences sur ma vie, c'est pas normal ?
Quand j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, donc en 2014, et là, je me suis vraiment enfoncé dans ça, en fait. Je m'identifiais vraiment à ça, je fumais du matin au soir. Et vraiment, les jours, ça se confondait dans ma tête, les souvenirs.
Vous étiez défoncé tout le temps, quoi.
J'étais tout le temps défoncé, du matin au soir. Et au final, je pense que ça ancre aussi une grosse dépression. Ça soigne pas, en fait, ça soigne pas du tout le problème. Ça, c'est pire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pire. On essaie d'éteindre la souffrance.
On s'isole, en fait, et c'est vraiment pas bon, quoi. Surtout que ça peut déclencher des gros problèmes chez des gens qui ont eu des chocs émotionnels. Ça peut déclencher de la schizophrénie s'il y a des prédispositions ou d'autres...
Oui, alors ça, on en a beaucoup parlé. On posera ce genre de questions tout à l'heure à notre expert. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté à un moment ? Quel a été le déclic ?
Je me suis mis avec ma meilleure amie. Je me suis mis avec ma meilleure amie que j'avais depuis le collège.
C'est-à-dire que vous êtes mis en couple ?
Ouais, on s'est mis en couple, on s'est mis en couple. Et un jour, elle m'a motivé, elle m'a lancé un défi. On était partis au château de Chantilly. Elle m'a dit, essaye de ne pas fumer aujourd'hui. Donc, j'ai passé la journée sans fumer. Franchement, on s'est bien amusé. Il faisait beau, tout ça. On était avec de la famille. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas fumer quand il y avait la famille. Mais je n'ai pas trouvé ça plus dur que ça. Donc, elle m'a dit, demain, on fait d'autres activités. Donc, essaye de ne pas fumer. Donc, pareil, on a fait des activités, on a fait des sorties. Je n'ai pas fumé. Et ainsi de suite, en fait, ça s'est déclenché comme ça. J'ai vu que j'en manquais pas plus que ça. Donc après, j'ai pris des petits substituts quand même pour m'aider.
Quoi, du CBD par exemple, des trucs
comme ça ? J'ai pris du CBD, mais en gouttes. Oui. En gouttes, en fait, c'était du CBD en huile. C'est de l'huile de noisette avec du CBD dedans. Et c'est mieux que le CBD à rouler, à fumer, parce qu'en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence, puisqu'on continue à mettre quelque chose.
Oui, garder le geste. Oui.
Voilà, on garde le geste, on continue à mettre de la résine dans les cigarettes à rouler, quoi, enfin, dans les joints. C'est comme un joint, quoi, pour moi, en fait. Psychologiquement, le cerveau, il ne fait pas la différence. Je faisais des massages... Enfin, ma copine, elle me faisait des massages pour me détendre aux huiles essentielles. Donc ça marchait très bien. Et j'avais aussi acheté de la fleur que je mélangeais avec du thé à l'ananas. Et je faisais des infusions, en fait. Donc ça avait quand même... Ça me détendait.
Mmh. Alors là, vous êtes, je le disais, vous êtes sobre depuis 10 mois.
C'est ça, un peu plus, ouais.
Est-ce que vous trouvez que vous avez des avantages à avoir arrêté ? Qu'est-ce que vous avez retrouvé que vous aviez perdu, par exemple ?
La joie de vivre, un peu, quand même. Ouais. Parce qu'on met beaucoup de problèmes sur ça. Mais en fait, quand on arrête, on se rend compte qu'on se crée beaucoup d'angoisse et on devient parano, en fait. On est complètement parano. Et non, franchement, moi, j'ai aucun regret niveau financier, niveau santé, niveau...
Le sommeil, ça se passe bien ? Vous êtes rendu compte que vous pouvez dormir sans un
joint ? Voilà, et je rêve. Avant, je ne rêvais pas du tout, en fait. Je m'en souvenais pas. Quand on fume, souvent, y en a beaucoup. Hein. J'ai plein de connaissances qui me disaient pareil. En fait, on ne se souvient pas du tout de ce qu'on rêve. Donc là, je me souviens beaucoup de tous mes rêves, quoi. La mémoire, elle revient un tout petit peu, mais toute la période où j'ai fumé, c'est assez confus. Et je mélange plein de souvenirs où ça se déforme. Donc, heureusement, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup de pièces comme ça pour me rappeler, en fait, Parce que mon cerveau, c'est vrai qu'il...
Oui, c'est comme tout un pan de votre vie qui n'aurait pas existé, quoi.
Ah, voilà. En fait, on vit dans sa tête.
Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux adolescents qui nous regardent ou aux parents d'adolescents ?
Que déjà, ça sert à rien de leur... comment dire ? Les braquer. Parce que, en fait, plus on va s'acharner sur un ado pour qu'il arrête, et plus il va le faire dans... En fait, on ne sera pas au courant. Enfin, le parent, il ne sera pas au courant. Mais il va le faire dans son dos.
Ce que vous dites, c'est que vous êtes suffisamment malin pour, de toute façon, inventer un truc et aller fumer par derrière.
Oui, clairement. Bah, pour un parent, ça doit être super dur. Parce que moi, je me mets maintenant, comme je vais être papa bientôt, je me mets à la place de ma mère. Et ça a dû être super dur pour elle parce qu'il n'y a aucune emprise. Mais il faut essayer quand même d'aller dans le sens du fumeur. Parce que sinon, après, ça dépend du caractère. Mais il va se braquer et vous ne saurez rien du tout de ce qu'il fait. Vous ne pourrez pas l'aider. Il va croire en fait que vous êtes contre lui. Et ça va être compliqué, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez tourné une vraie page de votre vie là ?
Ah oui. Même j'ai beaucoup moins de peur quand je sortais avant. Si j'arriverais à avoir toujours mon bout de cannabis, où est-ce que j'allais le cacher ? Si je suis avec des gens, comment je vais réussir à fumer quelques tafs sans qu'on me voie ? Ou parce que socialement c'est pas très.
Non.
C'est pas très avec les forces de l'ordre, tout ça. J'ai déjà eu des problèmes.
C'est compliqué en fait.
Ah ouais, c'est vraiment on dirait qu'on se cache on a un super pouvoir alors que c'est pas du tout un super pouvoir. On se cache parce que voilà quoi, c'est un peu une honte je pense au final parce que c'est pas légal. Mais ceux qui fument franchement ça fait un cercle après en fait.
Ça isole.
Ouais voilà.
Alors vous l'avez dit, vous allez bientôt être papa. C'est quand même fantastique. Votre fiancée, elle s'appelle Julia.
C'est ça.
C'est marrant, elle a un message à vous passer, Julia.
Ah bon ?
Ouais. Coucou Doudou, juste pour te dire que je suis super fière de toi, de l'arrêt du cannabis. Franchement, tu t'en es sortie, mais comme un chef. Aujourd'hui, t'as changé ta vie du tout au tout, franchement. Il n'y a rien à voir avec avant, donc je suis vraiment très fière de toi et je te le répète encore une fois. Je t'aime énormément et je suis contente que voilà, notre amitié s'est transformée en amour et que de cet amour naîtra notre petite puce dans 2 mois. Bisous, je t'aime.
C'est grâce à elle, hein, franchement. Elle m'a beaucoup aidée et même le changement d'environnement, elle a mis plein de processus en place. Et moi j'ai d'autres amis qui sont seuls. On va dire qu'ils sont seuls c'est du mal. Pour s'en sortir, ça va être dur pour eux. Franchement, quand on est seul, en fait, il faut vraiment avoir un changement d'environnement ou un déclic qui fait que...
Quelque chose qui change, en tout cas, dans sa vie.
Mais après, il faut arrêter pour soi, vraiment, avant tout.
Docteur Olivier Fahn, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, chef de service en addictologie à la Fondation Santé des étudiants de France, spécialisé dans la prévention, dans la formation, dans la recherche, dans la prise en charge des jeunes qui présentent des conduites addictives en général. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent ». Autant dire que vous avez écrit une bible pour les parents, c'est aux éditions Solar. Et puis il y a aussi un manga pour la prévention des addictions chez les jeunes, qui s'appelle Kusa, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, qui est assez formidable, parce que alors ça, au travers d'un manga, on ne peut que toucher nos adolescents. C'est vrai que c'est un sujet qui inquiète énormément de parents et qui semble, et on l'a entendu dans le témoignage de Julien, extrêmement banal pour les adolescents. Déjà, pour les parents, qu'est-ce qui doit nous alerter ? Quels sont les signes qui ne trompent pas ?
C'est les conséquences qui sont à la fois scolaires, chute du rendement scolaire, le cannabis comme... ça a été dit, entraîne des troubles de la mémoire, et la mémoire est utile pour la scolarité. Ce sont des changements de comportement. C'est rentrer le soir, les yeux rouges, et vider le frigo, les petits signes, ce qu'ils appellent la fonce dalle.
Oui, mais c'est-à-dire que quand on fume du cannabis, après, on crève la dalle.
Et c'est surtout des changements de comportement. Souvent, comme ça a été dit, le cannabis fait suite à une souffrance qu'on essaye de régler à travers la consommation.
C'est
c'est ça qui doit nous alerter. Plus que la consommation en elle-même, ce sont les conséquences de celle-ci. Le message que les parents délivrent, le problème n'est pas la consommation en soi, ce sont les conséquences qui nous intéressent. C'est-à-dire de se focaliser sur la consommation. Ils peuvent croire qu'on le fait pour des raisons philosophiques, morales. On le fait parce qu'on aime nos enfants. et qu'on souhaite le meilleur. Et c'est ça le message principal qu'il faut essayer de transmettre.
Justement, question de parents, c'est la question de Laurence, mais qui est certainement celle de plein de téléspectateurs. J'ai trouvé du cannabis dans la poche de mon fils, je n'ai rien vu venir. Que dois-je faire et comment réagir ?
Alors, c'est vrai que la découverte du cannabis doit interpeller les parents. Et d'abord, de faire avec soi-même où est-ce qu'il en est, la scolarité, tout ce que j'ai dit, quelles sont les conséquences. Et puis ensuite, venir en parler. Et de manière, je pense, la plus adéquate de dire, écoute, tu as ta liberté, tu as ton intimité, mais la santé est quelque chose qui nous regarde en tant que parents.
Oui.
Protéger son intimité, c'est faire en sorte de s'épanouir et d'épargner sa santé. À partir du moment où l'adolescent met en danger sa santé, ça légitime le parent. Pour intervenir, car le premier réflexe de l'adolescent, ça sera oui, c'est mon intimité, c'est ma vie privée.
Ça peut aussi être occasionnel. Il peut dire voilà. Oui, mais c'est une fois de temps en temps.
Oui, alors je pense que la première chose pour éviter les résistances de l'adolescent, c'est légitimer son intervention. C'est très important, l'adolescent grandit, il souhaite son intimité, il souhaite son indépendance et vivra l'intrusion des parents, non pas comme une aide, mais comme une contrainte. Oui. Donc il faut, contourner ça, de dire la santé, c'est pas seulement toi, c'est nous. Si t'as quelque chose, on sera malheureux. Mmh. Et une fois qu'on a légitimé ça, on baisse la tension et ensuite on discute calmement. La découverte, la tension monte. On peut être très stressé, très angoissé. L'adolescent, il le sera aussi. Et le stress empêche la communication. Mmh. Ce que je conseille aux parents, plus le niveau émotionnel sera bas, plus l'échange sera serein et on trouvera des solutions, on discutera, il dira ce qu'il se passe. Si la tension est élevée, c'est là où les choses se passent, la communication va être trompue, on va se fâcher, il va claquer la porte et tout le monde va sortir angoissé. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire intrusion dans la vie d'un adolescent, c'est qu'en tant que parent, la santé est un sujet familial. Sa copine, c'est un sujet personnel, mais la santé, c'est un sujet familial.
Une autre question envoyée cette fois en vidéo par Monique pour vous. Regardez.
Bonjour, j'ai lu que de fumer du cannabis pouvait entraîner la schizophrénie. Est-ce vrai ? Merci.
Bon. Alors, Julien l'a évoqué tout à l'heure.
Oui. Voilà. On va le dire calmement. C'est d'autant plus vrai que la consommation a eu lieu avant 15 ans et que les produits ont été utilisés à forte dose, avec des cannabis dosés à 20%. C'est vrai que pour éviter tout risque, par rapport à la schizophrénie, il ne faudrait pas fumer quand on est mineur. Et c'est vrai qu'après 25 ans, les risques sont moindres. Donc oui, il y a un risque et il est d'autant plus important que la personne est fragile.
C'est ça, s'il y a un terrain, le cannabis peut réveiller
la schizophrénie. Oui, la question, c'est que on ne peut pas définir qui est fragile ou qui ne l'est pas. C'est un petit peu
la loterie.
Donc je pense qu'effectivement…
Dans le doute, abstenons.
Dans le doute, on ne joue pas.
Voilà, c'est ça. Pas avant 18 ans et certainement pas avant 15 ans, paraissent des recommandations raisonnables.
Étienne, qui vous demande si les risques d'addiction sont élevés chez les adolescents, y a-t-il des tempéraments plus enclins que d'autres à l'addiction ?
Oui, tout est une question aussi de fragilité. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est en bonne santé, qu'on a un avenir, qu'on a un entourage familial, on reste moins accroché. L'addiction, c'est quoi ? C'est qu'on essaye d'avoir du plaisir à travers la consommation, et moins on en a ailleurs, plus on le cherchera à travers la consommation. Donc oui, il y a des facteurs de fragilité.
D'accord.
Paola vous dit, ma fille de 17 ans me dit qu'elle ne fume que du CBD. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est aussi nocif que le cannabis ?
Alors, le CBD est un cannabinoïde, mais qui n'est pas un psychotrope, qui n'est pas inscrit sur la liste des stupéfiants. Donc, on a effectivement l'odeur du cannabis, le goût du cannabis, mais pas les effets sur le cerveau. C'est pour ça qu'effectivement, il est beaucoup moins dangereux que le THC.
Mais dangereux quand même ?
La question, c'est effectivement après les produits de combustion, puisque quand on fume du CBD, on mélange avec du tabac. Et du coup, évidemment, consommer, on a les risques liés à la consommation de substances qu'on va fumer. Mais généralement, je dirais que le risque, c'est que évidemment, à partir du CBD, on soit tenté de passer au THC. En revanche, quand on fume du THC et qu'on passe au CBD, eh bien, on protège un petit peu son cerveau. Mmh. Donc, je dirais que dans le sens THC-CBD, c'est plutôt intéressant, même si on n'aura pas les effets psychotropes.
Sachant que pour une maman ou un papa, c'est impossible de déterminer en voyant un peu d'herbe si c'est du CBD ou si c'est du cannabis. C'est impossible à l'œil nu.
Non, le seul
moyen. Ça se présente sous la même forme, en fait.
C'est la même forme, oui. C'est vraiment les produits qui sont contenus dans la plante, hein, dans le cannabis sativa, qui est la plante de cannabis. Vous avez des variétés qui sont riches en THC, des variétés qui sont riches en CBD, mais l'apparence de la plante est la même.
Jacqueline vous dit, à mon époque, on disait que le cannabis était une drogue douce. Est-ce toujours le cas aujourd'hui?
Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, doux. Si vous en fumez 10 par jour, c'est plus doux. Ce qui a changé par rapport à la génération des grands-parents, c'est la précocité de la consommation et l'importance de la concentration. Quand on fume et qu'on a plus de 25 ans avec des produits dans les années 70 qui titraient à 3%, et actuellement, des ados de moins de 15 ans qui fument des produits à 25%, c'est pas pareil. Donc, c'est vrai que la précocité et l'intensité des concentrations en font un produit dur.
Nathalie vous demande quels sont les effets immédiats du cannabis, comment agissent ces substances actives sur le cerveau, sur le moment et dans les heures qui suivent.
Oui, alors l'action dans les récepteurs qui marquent l'action du cannabis, il y en a un peu partout dans le cerveau. On a les effets recherchés sont effectivement sur la labilité émotionnelle due à l'action sous-corticale du cannabis. On perçoit ces émotions de façon différente. Les premières prises, on a ce qu'on appelle les barres entre copains, les crises de fou rire, et ça modifie un petit peu la perception émotionnelle. Après, il y a les effets sur le temps, puisque c'est une action sur le cervelet, donc on a une notion du temps qui est perturbée. Malheureusement, à forte dose, on peut avoir des mécanismes d'hallucination, mais ça, c'est à très forte dose. Ce qui cherche essentiellement, c'est la labilité émotionnelle, une modification qui est différente des émotions. On regarde un film pas de la même manière, une musique pas de la même manière, et c'est ce qui est un petit peu recherché dans les premières consommations.
Arnaud, vous en parlez avec des parents d'enfants même jeunes?
Oui, alors nous,
le problème
en tant que néonatologiste, c'est les femmes enceintes. Mmh. Il y a une époque, il y a 20 ou 30 ans, où elles n'osaient pas avouer qu'elles consommaient pendant la grossesse. Mmh. Et nous, quand on examinait le bébé en maternité, on laissait tomber un trombone à 2 mètres, il y avait le nouveau-né qui sursautait. Mmh. Et là, on se doutait qu'il y avait eu de la consommation. Ah. Heureusement, les choses ont changé dans l'approche des femmes qui sont enceintes pour qu'elles nous disent si elles ont consommé, sans qu'on les juge. Parce que nous, on a besoin de savoir derrière pour savoir quoi faire avec la prise en charge.
Pour aider les adolescents qui seraient accros, qu'est-ce qu'on peut conseiller en dehors du parcours clinique, s'inscrire dans le sport, faire du théâtre, faire des activités comme ça? C'est quelque chose que vous conseillez?
Oui, je crois qu'il y a deux leviers. Hein. Il y a tout ce qui est effectivement motivation externe de ça, et puis la motivation de l'adolescent. Je crois que ce qui est important, c'est de discuter avec les adolescents les objectifs de vie, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire de sa vie, pour ensuite mettre en lumière l'incompatibilité entre ce qu'ils souhaitent faire
et le pétard.
Je crois que c'est important de commencer par qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Ça permet d'avoir une action non moralisante et non jugeante. Hein, et encore une fois, si on souhaite qu'il arrête, c'est pour qu'il ait un meilleur avenir, qu'il ait une relation sentimentale satisfaisante. Et tout ça n'est pas compatible avec la consommation.
Bien sûr. Mmh. Et quand vous voyez, il y a quelques semaines, quelques mois, au Super Bowl, Snoop Dogg, star mondial, qui fume un gros pétard en direct devant des centaines de millions de téléspectateurs, ça vous rend fou, non ?
C'est toujours,
ça
je crois qu'il faut,
truc,
oui, bien sûr. Après, il faut expliquer le côté un petit peu show-off, publicité, et puis la réalité. Et surtout, il faut expliquer une chose que j'explique aux adolescents. Les gens géniaux, ils se stimulent le cerveau de toutes les manières, donc ils consomment. Mais ce n'est pas parce que vous consommez que vous deviendrez génial. C'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Je crois qu'il faut rétablir la vérité. Vous pouvez fumer tout ce que vous voulez. Vous ne devriez pas devenir rappeur de talent par le simple fait de consommer du cannabis. Donc je crois qu'il faut préciser cette association qui fait croire qu'on devient génial en fumant, alors que ce sont les gens géniaux qui, effectivement, ont un cerveau en ébullition et qui consommeront des produits, mais ils étaient géniaux avant de consommer.
C'est pas le cannabis qui a rendu Snoop Dogg génial. Ouais.
Non, je pense qu'il l'était avant, ouais, et je pense que si on l'interrogeait, il se vexerait si on lui disait que c'est le cannabis qui l'a rendu génial. Donc je crois que, bon, il y a une liberté d'expression, on va revenir, mais je crois que c'est important aussi de faire des émissions comme ça, ouais, qu'il y ait un contre-pouvoir et qu'il y ait un autre avis. Il disait, voilà, il y a Snoop Dogg, OK. Mais les parents, ils sont toujours là.
Catherine vous demande si un ado qui fume du cannabis risque de consommer d'autres drogues ensuite.
Alors, effectivement, ce qui a été montré, c'est pas la théorie de l'escalade, c'est-à-dire que par le simple fait de consommer du cannabis, vous allez consommer d'autres produits. En revanche, il y a la théorie de la porte d'entrée. Vous prenez un adolescent fragile et il découvre le cannabis et il découvre que ça lui fait du bien. Le dealer, il ne s'arrête pas au cannabis. Donc, il va proposer d'autres produits. Et effectivement, c'est la théorie de la porte d'entrée. C'est que les gens fragiles commencent par des produits faibles et comme ça ne résout pas le problème, vont être dans l'escalade. Mais c'est la fragilité de l'adolescent. Le produit en lui-même, si vous n'êtes pas fragile, etc., ce n'est pas le fait simplement de consommer du cannabis qui va vous faire consommer d'autres produits. C'est la porte d'entrée. C'est-à-dire, voilà, une fois que vous avez appris le truc, vous êtes fragile, le risque, c'est de continuer.
Merci docteur Olivier Pan d'être venu ce matin dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas, si le podcast des maternelles vous plaît, il y a des centaines d'épisodes de disponibles sur à peu près tous les sujets possibles, en particulier si vous êtes enceinte. Là, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous intéresser. Chaque question que vous vous posez, il y a forcément une réponse en podcast. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous suggérer des idées de thèmes. Ciao tout le monde.